Radio Cité Genève, Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Valérie Demont. Bonjour Valérie.
Bonjour Viviane.
Alors, je vais expliquer qui vous êtes. Vous avez une double casquette en fait. Vous êtes à la fois entrepreneur et coach pour entrepreneurs, si j'ai bien compris.
Absolument.
C'est absolument ça. Alors, je vais vous poser la question rituelle. Quelle petite fille étiez-vous ?
Oh, une petite fille un peu turbulente et qui voulait absolument trouver sa place.
Vous êtes née où ?
À Moudon.
À quel endroit ?
À Moudon, en fait, à Payerne, à l'hôpital de Payerne. J'ai
D'accord.
grandi à Moudon.
D'accord. Et vous avez, votre enfance s'est écoulée à quel endroit ?
Et à Moudon aussi.
À Moudon aussi.
J'ai fait toutes mes écoles, tout mon sport.
D'accord.
Toute la vie d'une petite ville, quoi.
Oui. Donc, heureuse enfant ?
Très, très. Je crois que j'ai vraiment grandi dans une bulle, en fait, où j'avais pas tellement conscience de ce qui se passait dans le monde.
Donc, vous avez grandi dans une bulle, Valérie, et que faisaient vos parents ?
Alors, ils avaient une entreprise. Mon père était entrepreneur et ma maman travaillait avec. Dans la construction métallique, et c'était une entreprise qui était familiale. Donc
c'était créé par vos grands-parents, vos
arrière-grands-parents.
Arrière-grands-parents, donc c'est une belle continuité familiale.
Oui, on avait, j'ai eu l'occasion de travailler un petit moment avec eux, et on a fêté les 120 ans de l'entreprise.
Ah oui, qui existe toujours ?
Non, elle était vendue.
Elle a été vendue.
Problème de transmission, voilà, quand on arrive à la retraite.
Bien sûr. Et vous avez des frères et sœurs ?
J'ai un petit frère, ouais.
Un petit frère.
Moi, je sais pas si on
peut toujours dire. Il est entrepreneur, lui aussi?
Il a été entrepreneur et il fait de la politique. Enfin, il est municipal, justement, à Moudon. Et puis, à côté, il travaille dans une entreprise.
Voilà. Alors, tout ça nous amène à dire que vous avez été une petite fille heureuse dans une bulle, ne connaissant pas trop le grand monde méchant, on va dire comme ça.
Exactement.
Voilà. Et les études, ça se passait bien?
Ouais, j'ai quand même dû pas mal travailler. Enfin, ça a été comme sur des roulettes jusqu'à, je sais pas, 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Puis quand on a dû choisir, en fait, cette année de sélection qu'on avait à l'époque, là, c'était plus compliqué parce que j'ai vraiment dû commencer à bosser beaucoup pour pouvoir maintenir mes notes, avoir la moyenne. Et puis, mais j'ai quand même voulu faire le gymnase sur le canton de Vaud, on appelle ça le gymnase, et puis aller à l'université. Bon, après, c'était moins fun à l'uni parce que...
Oui, alors vous avez fait quel type d'études ?
Commerce, j'ai fait économique et puis HEC après. Et je me suis très vite arrêtée à HEC pour finalement atterrir au Savi et puis faire une formation dans le marketing et puis obtenir un brevet, quoi.
À quel moment vous avez su ce que vous vouliez faire vraiment ? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités.
Alors en fait, il y a beaucoup de possibilités. Je ne sais même pas si aujourd'hui je sais ce que je veux faire.
Mais, ça, c'est intéressant, on va en reparler tout à l'heure.
Oui, non mais alors, on en parlera tout à l'heure. Je peux même vous raconter les discussions que j'ai avec mon fils à ce sujet, parce que c'est difficile de choisir sa voie. Mais je pense, au gymnase, j'ai eu une prof de compta qui a eu, elle, une entreprise... Et donc, elle n'était pas une prof classique, quoi. Donc, elle venait vraiment nous raconter, en fait, comment ça fonctionne, le monde de l'entreprise. Et du coup, je comprenais l'utilité de la comptabilité. Et je trouvais qu'elle était admirable, en fait. Et j'aurais voulu être comme elle. Elle m'inspirait beaucoup, aussi par son caractère et puis la prestance qu'elle avait en classe. Elle était vraiment le stéréotype de la prof, quoi, avec ses lunettes. Elle nous regardait comme ça par en dessus, enfin, voilà.
Un professeur pour les élèves.
Oui.
D'avoir des bons professeurs, d'avoir des professeurs qui ont à la fois de l'empathie et de la connaissance et de l'expérience.
Je crois que c'est essentiel, en fait, pour motiver l'enfant à apprendre.
C'est pas naturel, au fond, d'apprendre.
Je crois pas, non. Non, je crois pas. Non, apprendre, si on n'a pas un intérêt, ça devient compliqué.
C'est ça.
Si c'est difficile de trouver de la motivation quand on n'a pas d'intérêt. Et bon, cette prof, Madame Liniger, oh là là. Et j'ai voulu, en fait, être prof de compta. C'est pour ça que j'ai fait HEC, un bout.
D'accord.
Parce que je trouvais qu'elle était très inspirante. J'ai très vite déchanté quand j'ai vu comment était enseignée la compta à HEC à l'époque.
Pourquoi ?
Il n'y avait pas de proximité, c'était de l'enseignement académique, et puis...
C'était pas appliqué ?
C'était pas appliqué, puis le livre... J'ouvrais ce livre de compta, je ne comprenais plus rien, je ne comprenais pas les phrases, on parlait de ces écritures débit-crédit, c'était pas du tout ça qui était expliqué dans le livre. Pourtant, j'avais déjà fait 5 ans de compta, 2 ans au collège, 3 ans au gymnase, je tombais des nues, je savais pas de quoi on parlait, en fait. Donc, ouais, c'était très compliqué pour moi à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, je suis pas sûre que je vais être prof de compta, finalement.
Donc, bifurcation vers le marketing.
Bifurcation dans le marketing parce que, bon, je crois ma vie, elle s'est faite d'opportunités. Et puis, dans ma dernière année d'université, j'ai bossé comme téléphoniste dans un call center. Et là, le patron du call center, je vais le voir, je dis, ouais, j'ai raté mes examens d'uni, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est la fin de ma vie. Il me dit, moi, j'ai un poste d'assistante marketing. Si tu viens, on te forme au marketing, tu fais ton brevet. Et j'ai dit oui.
Valérie, au fond, c'est beaucoup de rencontres. Le professeur, après ça...
C'est que ça.
Ce monsieur du call center, ouais, c'est que ça la vie. Un peu.
Moi, je crois que c'est que ça. C'est que... Et puis maintenant, ça me confirme ça tous les jours. Enfin, même nous, là, je sens qu'on a une belle rencontre.
Oui, c'est vrai.
Pourtant, ça, on ne se connaît pas depuis longtemps. On se rencontre maintenant. C'est ma vie, c'est ça. Et tous les jours, c'est ça. Et je ne fais que rencontrer des gens qui sont merveilleux, qui m'inspirent. Et puis, je me dis... on va pouvoir, tous ensemble, on va pouvoir transmettre des belles choses, de la lumière au monde, quoi.
C'est beau ce que vous dites. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une attitude que vous avez dans la vie, que vous avez, je ne sais pas si elle est naturelle, si elle a été cultivée ou si c'est les deux, ou au fond, vous avez cette ouverture, cette curiosité sur les autres. Cette ouverture, tout simplement, vous avez envie de leur parler, envie d'accueillir ce qu'ils disent.
J'aurais envie qu'on inverse l'interview, en fait. Donc, moi, je fais aussi du podcast. J'adore passer du temps à discuter avec les gens, à boire des cafés avec. Si je pouvais être rémunérée à boire des cafés avec les gens et découvrir leur vie, je serais nourrie. Et, parce que finalement, c'est cette nourriture-là qui est la plus importante, en fait.
Alors, on va parler tout à l'heure de votre premier livre qui s'appelle Green. Mais j'ai retenu quelque chose, justement, entre le fait d'écouter et d'apprendre... Je crois que le Dalai Lama a dit une phrase qui est très intéressante et qui peut tout à fait s'appliquer là pour le moment. Vous pouvez me la rappeler ?
Ouh, alors là, je ne la sais pas par cœur.
Alors la phrase,
c'est qu'on
sait très bien, enfin moi je vais le dire de mémoire, on sait ce qu'on veut dire, on n'apprend rien.
Ouais.
Mais par contre, si on écoute quelqu'un, on a des chances d'apprendre quelque chose.
C'est ça. Et c'est... Moi, je vivre avec les gens et pouvoir les sentir, mais après, même peut-être au-delà des mots et du dialogue qu'on va avoir, pouvoir ressentir qui ils sont, c'est magnifique.
Alors, on va écouter un peu de musique. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Je crois que ça symbolise un petit peu ce qu'on vient de dire. La chanson de... Alors, à la base, c'est Neil Young, je crois, qui a écrit cette chanson, mais c'est Heart of Gold et j'aime l'interprétation de Passenger.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give. They keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Thank you. searching for a heart of gold. Keep me searching and I'm growing old. They keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Nous sommes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Valérie Demont. Valérie Demont qui, comme nous l'avons vu, est à la fois une femme entrepreneur et un coach. Mais ça, c'est ce que nous allons voir. Alors, le chemin pour arriver à devenir coach, ça a été le marketing. C'est pas direct, ça, non plus.
Non, c'est pas vraiment direct. Et puis je suis pas sûre que j'assume pleinement mon titre de coach. Mais c'est ce que je fais, parce que j'accompagne des entrepreneurs.
On va en parler tout à l'heure de ça. D'abord, je voudrais savoir le marketing. Pourquoi le marketing?
J'ai compris
que la comptabilité, c'était pas ça.
Non, la comptabilité, c'était pas ça.
Alors, le marketing.
Et pourtant, j'aime les chiffres. Le marketing, en fait, moi, ce qui m'a fascinée dans le marketing, c'était les gens. Et c'était de comprendre quel était le besoin pour pouvoir fournir une prestation. Bon, finalement, la société de consommation, elle nous amène à quelque part qui ne me plaît pas forcément aujourd'hui.
À créer les besoins.
À créer le besoin.
À créer des besoins complètement artificiels.
Exactement, exactement. Et on perd le besoin primaire et ce qui est essentiel pour les gens.
Il y a pire que ça dans le marketing.
Ouais,
il y a aussi de travestir les mots,
oui.
D'utiliser des mots de tradition, d'héritage, d'authenticité, alors que on ne mérite aucun de ces mots-là.
C'était très difficile pour moi il y a quelques années parce que j'ai vraiment... Le marketing, c'était dans mes tripes. Hein, et j'ai des amis qui me disent « Mais toi, t'es très marketing, Valérie. » Plus qu'entrepreneur. Et puis, en essayant de convaincre des entreprises, en les formant à adopter les nouveaux outils digitaux, à utiliser ces réseaux sociaux...
C'est bien, ça, par contre,
mais
c'est bien.
C'est bien... Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va dire, quoi? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour faire de la publicité?
Mais ça, c'est comme un tuyau, au fond, il faut savoir ce qu'on va mettre dedans.
Exactement, exactement. Donc, quel contenu, qu'est-ce qu'on amène, quelle est l'authenticité qu'il y a au fond de nous? Mais l'authenticité, on en a fait un concept marketing, encore une fois, quelque chose de
héritage aussi.
Ouais,
C'est dommage, parce qu'en fait, ce sont des mots très beaux, qui devrait s'appliquer à des entreprises qui véritablement respectent ces fondamentaux, alors que utiliser à tout va comme ça, c'est galvauder ces mots-là, et en fait, les gens qui appliquent vraiment ça ne peuvent même plus s'en servir.
Tellement.
On
détourne tout ça. Ça va m'énerver très vite.
Oui, mais je vois qu'on a le même énervement.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis.
Et moi, je vous dis ça en patron d'horlogerie.
Oui. Pour moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour la tradition, mais l'héritage aussi qu'on a dans notre ADN, hein, de nos ancêtres. Et puis ce qui nous vient forcément de notre famille. Puis moi, en ayant grandi dans une entreprise qui avait 120 ans, enfin dans un contexte entrepreneurial qui avait 120 ans, il y a ce respect-là et puis se dire quelle était l'histoire au fond entre mon père qui a repris en dernier et puis mon arrière-grand-père et quel était le fil conducteur entre eux. Et de se poser la question, en fait, comment ça s'est insinué à l'intérieur de l'entreprise, transmis de génération en génération, et dans les tripes de chacun des collaborateurs qui s'asseyaient le matin à 7h moins quart autour de la table pour boire le café avec mon père avant de partir sur les chantiers. Donc, pour moi, c'est ça la tradition, c'est qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui nous relie tous ensemble. Et le fait de venir parler... de valeurs, de mission d'entreprise, de la vision d'entreprise. Je crois que c'est essentiel de repartir aux sources et d'aller chercher ça dans les tripes et dans le cœur de chacun des collaborateurs qui œuvrent dans cette entreprise aujourd'hui pour la faire tourner. Et c'est pas venir coller une nouvelle image ou aller chercher ailleurs quelque chose qu'on a dans la tête, qu'on croit que le marché a envie d'entendre. C'est pas très marketing, ce que je viens de dire.
Non, c'est l'anti-marketing.
C'est l'anti-marketing, mais je veux dire...
Mais c'est bien. À la base,
le marketing est quand même là pour mettre sur le marché, pour apporter au marché un produit qui est nécessaire et dans lequel on a besoin et qu'on va croire dans son utilité, mais plus aujourd'hui. Et ça, franchement, ça me rend triste, quoi.
Bah oui, je comprends très bien. Alors, le côté entrepreneur maintenant. Vous êtes marketing, on a compris. Oui. Enfin, marketing, anti-marketing. C'était un passage obligé. Et alors, comment êtes-vous arrivée à l'entrepreneuriat ?
Je ne trouvais pas ma place dans l'entreprise, en fait.
Dans l'entreprise familiale ?
Ah non, pas dans l'entreprise familiale. Entre mon parcours après, on va dire, HEC, quand j'ai commencé à travailler, jusqu'à mon expérience dans les grandes entreprises, où là, premier burn-out, puis ensuite...
Ça, c'est très intéressant. Pourquoi on fait un burn-out, Valérie ?
Alors, honnêtement, parce qu'on n'est pas à sa place, mais...
Parce qu'on n'est pas à sa place, ouais. Parce qu'on a tendance à penser que c'est parce qu'on en fait trop. Et moi, j'ai toujours pensé que cette notion du trop n'était pas forcément la bonne. Alors, je suis très intéressée burn-out, c'est plutôt qu'on s'est tordu, distordu pour faire quelque chose qu'on n'aimait pas forcément.
Exactement, c'est exactement ça.
Parce que
ça.
Le trop, il n'y en a jamais trop si on aime.
En fait, oui et non. Parce que... Si on aime, on compte pas, mais à un moment donné, à quel moment est-ce qu'on laisse de la place pour se remplir ?
D'accord, ça c'est très important.
Et donc du coup, la balance, elle se fait où ?
On ne peut donner que si on reçoit.
Oui. Et ouais. Mm. Et moi, dans ces moules de grandes entreprises avec un cahier des charges et une place bien définie, j'ai beaucoup de peine à rentrer dedans, à cadrer. Et au bout d'un moment, le cadre, même que je donnais, parce que j'ai adoré travailler dans ces environnements-là, j'étais bien, j'étais à fond, j'étais carriériste, je m'éclatais, j'étais hyper contente de mes primes, de gagner ma vie comme ça, enfin, c'était juste génial. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça allait complètement à l'encontre en fait, de qui j'étais. Mais je crois que je ne savais même pas encore qui j'étais et ce que je voulais dans la vie. Et là, j'avais entre 25 et 30 ans. Quoi.
Là, je vais poser une question tout à fait iconoclaste. Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme et que c'est vrai que pour une femme, on ne peut pas se réaliser que dans le travail ? Ou est-ce que vous pensez que ça serait arrivé à n'importe qui, homme ou femme ?
Je ne sais pas. En tout cas, ça... Pour moi, ça n'a pas toujours été évident d'être une femme parce que là, dans ce poste-là, j'avais quand même pas mal de responsabilités. Et je me rappelle passer devant le board le lundi matin pour faire un état de la veille du marché et où me sentir la petite Valérie pas à la hauteur devant tous ces mecs cravatés et puis avoir une espèce de regard de jugement à la petite nana du marketing.
Ça, j'aime pas du tout, on va en reparler tout à
l'heure. Moi non plus, j'aime pas du tout ça. Et puis du coup, j'ai créé moi des endroits dans lesquels je pouvais être moi 100% sans avoir un ressentir un jugement de l'autre. Quoi. Mais de temps en temps, ça m'arrive, ça, mais c'est de plus en plus rare.
On va écouter Marilyn.
Ah oui.
D'Indochine.
Ah oui.
Allez, on écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Embrasser le garçon sur la bouche et puis se mouiller. L'emmener dans le fond du couloir et puis se brûler. Être blanc, être pâle, se rechercher la vie, se faire mal. En se disant que juste après, on ne le regrette. Sûrement pas juste après. Moi je veux vivre, vivre, vivre un peu plus fort. Thank you.
êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Valérie Demont. Vous avez compris que Valérie est un personnage complexe, je suis sûre, si vous nous écoutez depuis le début. C'est une femme entrepreneur, elle a commencé par de la comptabilité, elle est passée par le marketing. Après ça, elle est devenue donc entrepreneur, mais il y a beaucoup à dire, on a commencé à en parler. Et puis aujourd'hui, alors, racontez-moi.
Aujourd'hui, j'ai envie d'amener du cœur dans les entreprises. Et ça peut passer seulement si les dirigeants, les collaborateurs connectent avec leur propre cœur à eux, avec, on va dire, leur propre vérité, authenticité. Et donc, c'est un travail sur soi. Je ne dirais pas que je suis coach de vie, parce que ça, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'entreprise et l'entrepreneuriat. Mais d'aller chercher cette authenticité-là pour pouvoir la mettre dans du marketing ou faire renaître le marketing
différemment.
Différemment, ouais.
Alors, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de reparler de ce burn-out. Ouais. Est-ce que c'est ce burn-out qui vous a amené à penser qu'il fallait aborder les choses en entreprise différemment et donc ensuite de transmettre votre expérience? Est-ce que c'est ça?
Alors, d'abord, en fait, ce burn-out, il m'a obligée à aller chercher moi, je voulais quoi? Et j'étais qui, je voulais quoi? Et à quel endroit est-ce que je serais bien? Et je pense que j'ai dû me retaper un peu et à trouver ma propre voie. Sur le chemin, j'ai rencontré mon mari.
C'est pas mal,
mon
ça.
Mon fils est né.
Un burn-out qui amène un mari.
Voilà, oui. Ouais, bah, oui.
Un monsieur protecteur, j'imagine.
Ouais, en fait, c'est ce que j'ai vu en lui. Je l'ai vu là sur cette chaise. Il y a 18 ans, 19 ans, et il était là, il avait des épaules, et je me suis dit, lui, je vais pouvoir m'appuyer dessus, et c'est exactement ça.
Oh, c'est beau, c'est magnifique.
Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de chance.
Ah bah, il en a peut-être beaucoup aussi. Hein.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Alors, donc, le burn-out t'amène à Marie, ouais, ça, c'est pas mal.
C'est
hein.
Ça, et puis, en
ça
fait...
Ça va donner du courage à beaucoup de femmes.
Il m'amène, oui, bah j'espère. le burn-out, il m'amène en fait à chercher qui je suis, ce que j'ai au fond de moi, et je me découvre des capacités en fait à aimer que je soupçonnais pas du tout, notamment avec mon mari, mais aussi à ce moment-là, j'ai ouvert un cabinet de massage et je sens l'énergie dans mes mains, je vois ce que ça fait quand quelqu'un vient, se couche sur la table et repart avec un sourire, les yeux qui pétillent, le dos ouvert et qui reprend sa
alors
place.
Alors qu'au départ, il est revenu, il est arrivé tout cassé.
Exactement.
Tout,
et puis,
tout
et puis fatigué, etc. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, je touche aux huiles essentielles, etc. Et puis là, en fait, en touchant à toute cette dimension énergétique, invisible, impalpable, je me dis, ouais, il y a autre chose, quoi. Mais on parle d'un chemin de 10 ans, quoi.
Un chemin de 10 ans. Et puis après ça, à quel moment vous avez décidé, alors, d'écrire? Parce que vous êtes passée à l'écriture.
Ouais, j'ai toujours écrit, en fait, depuis... Même quand j'étais... Je tenais des journaux intimes, on appelait ça comme ça à l'époque. Maintenant, on appelle ça des carnets ou des bullet journal.
On cachait ça parce qu'on n'avait pas envie que les parents
exactement. Le voient. Exactement. Donc, j'ai toujours écrit, je racontais mes états d'âme. Et puis, après ce premier burn-out, là, j'écrivais des pages et des pages. Probablement en écriture automatique, j'avais aucune conscience que c'était ça. Et puis à l'ère des médias sociaux, je me suis lancée dans le blog, quoi, quand c'est arrivé. Alors pas tout de suite en 2000, parce que le blog, il a quand même des années derrière lui, mais en 2010, et j'ai commencé vraiment à bloguer, voilà, marketing, médias sociaux, et pour moi, ça coulait, ça sortait de mes doigts, quoi. J'avais pas besoin de chercher ce que j'allais dire. Et à côté de ça, bah, tous les jours, j'écrivais dans mon journal, j'écrivais. Et après le décès de mon père en 2014, je me suis dit... Tout ça, tout ce que je vis au quotidien, je suis sûre que ça peut aider des gens, donc je vais écrire un livre. Quoi. Et donc, j'ai commencé à mettre tout ça en forme dans un livre qui n'a rien à voir avec Green.
On en parlera tout à l'heure de Green.
Parce que je n'ai pas osé, parce qu'il est toujours là et que j'ose pas aller plus loin pour le moment. Et puis que je ne savais pas où était la fin, et la fin est tombée pendant le confinement. Donc après, on verra ce qui viendra.
La fin de quoi?
La fin du livre.
La fin de l'histoire. Livre. Alors, il y a donc un roman ou du vécu? Ou un roman autobiographique.
Une sorte de roman autobiographique. Après, je ne sais pas s'il va être...
Vous lui avez donné un nom, déjà?
L'important est ailleurs.
L'important est ailleurs, c'est magnifique, ça. Il faut absolument le publier.
Oui, voilà, ça viendra quand ça sera
ça son viendra, heure. C'est pas mûr.
C'est une question de oser.
D'accord. Mais il faut oser hein, dans la vie.
Oui, oui, mais je pense que ça va venir.
Il faut passer sa vie à oser.
On est d'accord.
Alors, maintenant, on va parler de Green.
Oui.
Alors, Green, c'est un ravissant petit livre vert. Moi, j'adore le vert, donc tout va bien. Et puis, qui est léger, qui peut s'emmener partout.
Ouais. C'est le but.
C'est le but. Hein,
ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Green? Racontez-nous.
Dans Green, il y a la connaissance. En fait, ça regroupe aussi une partie de tout ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans. Ça regroupe qu'est-ce qui est... Comment est-ce qu'on comprend son corps, son mental et puis son cœur? Et comment on fait pour vivre avec ça dans l'écologie de soi et puis pour amener plus de cœur, en fait?
Alors, tout ça, ça a quand même une base. C'est pour l'entreprise. Hein.
Oui.
C'est dans un but entrepreneurial. Oui. Donc, d'améliorer soit la direction d'une entreprise, soit d'améliorer le vécu des employés ou des collaborateurs d'une entreprise. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris?
C'est exactement ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois fondamentalement que si on ne revient pas à notre essence et à notre propre vérité, comment est-ce qu'on peut trouver notre place à l'intérieur d'une entreprise et adhérer aux valeurs d'une entreprise? Et comment est-ce qu'on peut comprendre les valeurs de l'entreprise, la vision, la mission, ce qui a été véhiculé en fait par ses fondateurs à la base, quoi?
On va réfléchir à tout ça tout à l'heure, mais encore un peu de musique. Alors là, cette
oui.
fois-ci, c'est quoi?
Ah, c'est un hymne à la vie, Viva la Vida de Coldplay.
Radio, Cité, Genève.
Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. was when I ruled the world.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Valérie Demont. Valérie, on est en train, là, je dirais, d'échanger des choses très profondes qui vont bien au-delà. J'imaginais rencontrer un entrepreneur, peut-être un coach, ou même enfin quelqu'un qui avait une véritable expérience de vie, qui allait nous la faire partager, bien sûr, qui venait d'écrire ce petit livre Green, qui est une sorte de vade-mecum pour entrepreneurs ou pour collaborateurs d'entreprise. Je ne savais pas qu'on allait parler de tout ça. C'est formidable. Ouais. Il y a beaucoup plus de profondeur dans cet échange que ce que j'imaginais. Merci beaucoup pour ça.
Alors, vraiment, merci à vous, parce que je suis aussi surprise que vous.
Alors, c'était une bonne rencontre. C'est une bonne rencontre et je suis sûre que nos auditeurs l'apprécient aussi. Alors, dans Green, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Ça débute avec un arbre. Hein.
Oui, ouais, c'est important que les gens reviennent à leur corps, que tout le monde puisse connecter avec... C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, quoi. C'est que que tout le monde puisse connecter, le plus grand nombre puisse connecter avec son corps pour apprendre à capter les messages, parce que tout passe par le corps. Le corps, c'est le véhicule de l'âme ici sur cette terre. Alors, je ne vais pas aller trop dans l'ésotérique, mais c'est vraiment ça. Et cette âme-là, si on ne l'écoute pas, elle va chercher par tous les moyens de sortir. Et après... des quelques symptômes ou la boule au ventre.
C'est comme ça qu'on fait des éruptions de boutons.
Par exemple.
Mal au dos.
Ou des burn-out.
Mal au dos, j'en ai plein le dos.
Etc. etc. Ouais. Ou pire, allons pas sur ce terrain. Mais voilà, donc le corps capte tout. Encore faut-il comprendre quel est le message. Et donc à peu près, ça veut dire accepter en fait que son mental va venir... dire mais non, mais tu peux continuer, tu peux y aller encore, mais c'est qu'un petit bobo, fais pas ta chochotte, etc. Donc se dire, ok, le mental, à un moment donné, il est là pour certaines choses, il est utile pour actionner un plan, pour faire de la comptabilité, mais pour certaines choses, on n'a pas besoin de lui. Donc c'est se dire, ok, le mental, je le mets de côté, je reviens dans mon cœur et dans mon corps, qu'est-ce que je ressens à cet endroit-là où j'ai la douleur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Et au fond de mon cœur... Je sais pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis tendue. Peut-être je ne sais pas tout de suite, peut-être je dois attendre un petit moment, peut-être je dois méditer pour aller chercher la solution, la réponse. Mais si je ne prends pas ce temps-là, il se passe quoi? Après, la douleur, elle augmente, je prends des médicaments, etc. etc.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le livre. Vous dites que chaque jour, on devrait passer 5 minutes à vraiment ne rien faire. Mais quand vous dites ne rien faire, c'est pas se faire un café ou regarder par la fenêtre, c'est rien.
Rien, mais rien du tout.
Alors comment est-ce qu'on s'habitue à faire rien?
Ça vient petit à petit. Je crois que la première fois,
c'est un entraînement,
c'est
ça.
30 secondes, c'est hyper long. Et puis ça vient, c'est un entraînement. Moi, je dis ça à mes clientes. Et d'ailleurs, une de mes clientes, une année après, elle m'a rappelé pour me dire, Valérie, j'ai compris maintenant ce que tu voulais dire avec les moments de vide. Me dit, tout est là, toutes les réponses, elles sont là, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc c'est vraiment, je vais me poser, enfin, vous avez un très beau jardin, posez-vous dans votre jardin, faites rien pendant un moment. Qu'est-ce qui se passe? Respirez, qu'est-ce qui se passe? Regardez la nature, regardez
le ciel. C'est difficile d'empêcher une rafale de pensées d'arriver à ce moment-là.
Elles sont
pas forcément négatives. Hein.
Elles sont pas forcément négatives, mais elles peuvent juste passer. Peut-être si elles sont importantes,
elles
reviendront.
Oui, mais à ce moment-là, on s'accroche et ça n'est plus rien, ça n'est plus le vide.
Je pense que c'est une forme de méditation, en fait. Et dans la méditation, le but, ce n'est pas d'éteindre son cerveau, c'est juste de savoir laisser passer et de ne pas tout prendre. Parce qu'on ne peut pas tout prendre. Enfin, on peut... on a 8 heures par jour à notre disposition. Le reste du temps, il faut quand même dormir, s'occuper un peu de soi. C'est quand même bien si quand on est sous la douche ou quand on se brosse les dents, on n'est pas sans arrêt connecté à nos pensées ou en train de dérouler un plan marketing. Donc, c'est vraiment accepter ces moments de vide. C'est une sorte de pleine conscience. Et ce moment de vide, c'est je fais rien, je me pose, je regarde le ciel. Moi, j'adore faire ça sur mon balcon. Je mets les pieds sur la terrasse, sur la barrière. Je regarde le ciel et j'attends de voir ce qui se passe. Et peut-être qu'il y a des choses qui passent et les pensées qui vont passer, ce sera les réponses à la solution qui m'agaçait, enfin au problème qui m'agaçait tout à l'heure. ou simplement voilà, une idée pour un blog ou une piste pour développer mon entreprise, ou peut-être juste « Waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rien faire 5 minutes, quoi !» Et là, je me sens apaisée, connectée, relaxée, et c'est que 5 minutes, et je repars 10 fois plus performante.
Vous dites aussi « Les peurs doivent être entendues et prises en compte. »
Ben ouais.
C'est important, ça.
Oui, bah, je vous parlais d'oser tout à l'heure. Je fais un deal avec moi, quoi. Pour le moment, j'ose pas. Bah, c'est OK. J'ai encore un peu la trouille, honnêtement, de prendre toute ma
Alors là,
posture,
je répète pour des auditeurs qui arriveront en cours de route. C'est parce que vous avez écrit un livre autobiographique et vous n'êtes pas sûr d'avoir le courage à cet instant
Exactement.
De le publier.
Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il viendra, mais pour le moment, je suis pas prête. Donc, c'est OK. Je me sens pas pour le moment. Je sais que ça pousse à l'intérieur de moi parce que je le sens que ça bouillonne. Ça viendra. Maintenant, c'est pas le moment parce que j'ai encore un peu la trouille. Et pourquoi j'ai peur ? Parce que j'ai peur
du regard des autres.
Exactement, exactement. Du regard des autres.
Alors, qu'est-ce que ça peut faire, le regard des autres, Valérie ?
Mais je sais. Mais
c'est moi qui vais vous coacher.
Ah, j'adore. c'est ça. Mais en même temps, on est coach parce qu'on traverse les mêmes choses que nos coachés, quoi.
Tout à fait.
Donc, on grandit ensemble. Donc voilà, les peurs, elles doivent être entendues. Après, il y a des peurs qui sont là pour nous protéger. J'adore cette expression. C'est une coach qui me disait ça. Une de mes coachs qui me disait ça. Attaque de mammouth, Valérie. T'as peur. Alors, elle est utile. Tu pars parce que tu ne veux pas te faire écraser par le mammouth. Mais il y a plein d'autres peurs, comme oser, c'est pas une... Quel est le problème, quoi ? C'est un problème de confiance en moi, de posture, d'assumer ma place complètement. C'est ça, en fait. Et puis, quand je serai prête, ça viendra. Je suis déjà chez vous aujourd'hui, c'est déjà vachement bien.
Alors, il y a aussi quelque chose qui me convient plus, qui est plus dans ma philosophie à moi. Vous dites « Nous influençons nos vies, nos choix nourrissent ou dégradent le vivant.
Oh. »
Alors ça, c'est formidable, parce que c'est exactement ça.
Ben, c'est ça. C'est ça. On est responsable de tous les actes qu'on pose. Donc, j'ai adoré, j'ai encore lu un truc hier soir là-dessus, c'est « Ok, moi, je suis en voiture, quoi. Mais est-ce que j'adore ma voiture, j'adore ma cabrio, et voilà, mais... Est-ce que j'ai vraiment conscience à chaque fois que je monte dans ma voiture que je pollue, quoi ?
Oui, mais alors attendez, là, on va passer notre temps à être très malheureux. Quand je mange quelque chose, je me fais du mal. Quand je monte dans la voiture, je pollue. Quand je me mets au soleil, j'attrape un cancer. Quand je fais l'amour, j'attrape le sida. Non, là, faut arrêter, hein, parce que on va tout de suite au cimetière, c'est beaucoup plus rapide.
Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, on fait des choix et on fait des choix conscients. Moi, j'ai fait plein d'autres choix pour la planète, qui me paraissent beaucoup plus durables que balancer ma voiture dans une décharge qui va polluer. Et pour moi, aider les gens à être eux, 100%, ça, c'est écologique et c'est durable. Et leur montrer, en fait, comment ils peuvent influencer leur réalité, voir autrement pour voir le verre, la bouteille à moitié pleine.
Exactement.
Ça, c'est durable et ça, c'est une influence, un impact positif sur le vivant.
C'est vrai, c'est vrai. Vous dites qu'on est tous interconnectés.
Complètement.
Ça, j'adore cette idée.
Ouais. C'est ça. Enfin, je veux dire, on sait bien ce qui se passe là entre nous ce matin.
Tout à fait.
C'est ça, on est interconnectés parce que sinon, on aurait une discussion purement mentale, quoi.
C'est vrai. Alors, vous avez écrit Green, c'est le volume numéro 1, vous faites une trilogie.
Oui.
Donc, vous allez sortir aussi Heart. Et puis ensuite, en troisième, business.
Exactement.
Alors, heart, il y a quoi dedans ?
Heart, il y a comment on fait... Alors, l'âme, c'est quoi ? Comment on fait pour l'entendre ? L'intuition, c'est quoi ? Et qu'est-ce que ça nous amène ? Et qu'est-ce que ça nous permet d'être ? Ou même de devenir ?
Autrement dit, green, c'est le corps. Et le numéro 2, il va être de quelle couleur ?
Rose.
Rouge.
Oui,
j'aurais pu le deviner là.
Oui.
Alors, à l'intérieur de Heart, vous mettez beaucoup de cœur, je suis sûre. Vous avez le cœur dans les yeux, Valérie.
En fait, je mets beaucoup de cœur et donc il est tout écrit. Là, je suis en train de le relire pour qu'il puisse partir chez ma magnifique graphiste qui fait un travail de mise en page juste magnifique, quoi. Parce que je lui ai tout donné.
Alors, je voudrais savoir, vous l'éditez où ? Parce que je n'ai pas très bien compris où c'était édité et où on pouvait l'acheter, du coup.
Alors, j'ai édité moi. Parce
d'accord.
Que pour le coup,
donc c'est votre entreprise
c'est
qui
mon
s'appelle
entreprise.
Greenheart.
Exactement.
Greenheart Business.
Exactement. D'où Greenheart et puis Business. C'était pas voulu à la base que les titres soient ça, mais c'est vraiment mon entreprise, c'est vraiment l'incarnation des bouquins ou l'inverse. Et donc j'auto-édite et c'est disponible sur mon site.
D'accord. Mais on peut le trouver en librairie
Non, j'ai encore rien fait. Il vient de sortir. J'ai rien fait pour.
Mais ça, il va falloir que ce soit possible. Il faudrait le distribuer de façon large.
J'envoie des bonnes ondes à l'univers et ça va revenir. Mais oui, j'aimerais beaucoup qu'il soit distribué au plus grand monde, quoi. Et
oui.
Puis parce que vous savez aussi quels sont les coûts en fait quand on le fait tout seul, quoi.
Bien
et
sûr.
Imprimerie locale, graphiste local.
Vous pensez pas que vous auriez pu trouver, je sais pas, c'est une question, hein, un éditeur pour
alors
ça?
J'aurais pu chercher. Honnêtement, je l'ai pas fait parce que j'ai commencé à faire ça pendant le Covid.
D'accord. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire pendant
le Covid. En fait, c'était tout d'un coup, je me suis dit, à force de discussion avec les gens, je me suis dit, je vais rassembler en fait tout ce que j'ai sous la main et comment ça s'articule. Et ça s'articule dans Green, dans Heart et dans Business. Et il fallait que ça sorte là maintenant parce que c'est maintenant qu'on a besoin de tous aller chercher notre vérité pour changer le monde. C'est un peu bateau peut-être.
C'est pas bateau du tout, c'est vrai. Mais on va écouter un peu Indochine à nouveau. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Nos célébrations.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec Valérie Demont. Valérie Demont, dont vous avez compris qu'elle avait beaucoup de casquettes. On a vu maintenant la petite fille qui était dans sa bulle, et qui n'avait au fond pas conscience du grand monde méchant, devenir une femme qui a fait de la comptabilité, qui a fait du marketing, qui a même été ma sœur à un moment, pour son amour des autres, au fond, pour qu'ils se sentent bien. Puis qu'il s'est mis à devenir coach d'entrepreneur. C'est pas tout à fait coach, parce qu'en fait, le but final est toujours l'entreprise. Maintenant, écrivain, avec un premier volume qui s'appelle Green, un deuxième qui va s'appeler Heart. Et moi, je voudrais parler du troisième. Le troisième s'appelle Business. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'entre... Il est de quelle couleur, le troisième?
Il est bleu.
Il est bleu.
Bleu bancaire.
Il est bleu bancaire, d'accord.
Bleu entreprise, quoi. Bleu sécurité, bleu confiance, quoi.
D'accord.
Dans business, en fait, c'est les business models classiques qu'on a eu l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant.
C'est-à-dire?
Alors, par exemple, business model generation. Qu'est-ce que, donc le canevas, donc qu'est-ce que j'ai comme dans ma proposition de valeur, qu'est-ce que j'amène, comment je l'amène. Donc là, on peut trouver toutes ces réponses avec Green et avec Heart, mais dans business, on va vraiment aller focaliser sur concrètement c'est quoi et on va le verbaliser. Et en face, on a ben voilà, les sources de revenus, les sources de coûts, comment ça fonctionne. Et puis, comment on s'attaque au marché, mais avec... J'aime pas dire le mot attaquer, je devrais reformuler.
Comment attaquer pas
se,
mal.
Comment on se déploie sur le marché avec une entreprise de cœur? Parce que finalement, c'est ça, en fait. En tout cas, les entrepreneurs que j'accompagne, la question qui se pose, c'est « Ok, maintenant j'ai bien compris comment on met du cœur dans mon entreprise, mais je vais chercher des clients comment ?» Alors, je peux déjà vous donner la réponse. Je vais chercher des clients en étant juste moi-même, sans aucun artifice. Mais pour ça, ça veut dire que je
ne marche pas forcément, ça, Valérie.
Si, ça marche.
Non.
Si.
C'est une des grandes déceptions
pour
moi qui fait plusieurs, qui a eu plusieurs vies d'entrepreneurs différents. Vous pouvez. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où vous pensez, parce que j'ai été élevée comme ça, moi, j'ai 73 ans, où vous pensez que la qualité extrême, faire le mieux, le plus durable, la qualité extrême, la plus haute technologie, ça peut vous amener forcément des clients. C'est pas vrai. Parce que vous êtes doublé au poteau par les as du marketing qui vont employer tous les mots qu'ils vont galvauder complètement, que vous n'oserez même plus employer, et qui, eux, vont envelopper ça dans du papier bulle, dans du papier de soie, dans n'importe quoi, mais tellement, de façon tellement agressive et tellement habile, qu'ils vont faire des grands succès financiers que vous ne ferez pas en ayant eu les valeurs, les vraies valeurs.
Quel est l'objectif? Est-ce que c'est forcément le succès financier?
Ah bah attendez, sinon vous fermez la boîte. Hein. Donc moi, je vous réponds tout de suite.
Alors, on est d'accord qu'une entreprise, elle est là pour faire de l'argent.
Elle est là pour faire de l'argent. Elle n'est pas là pour... Mais... Et elle n'est pas là non plus pour que l'entrepreneur soit constamment dans des transes pas possibles pour la survie. C'est pas possible, ça.
Bah non, mais en même temps, c'est une question de perception et de comment je vois la vie et comment je vois le marché. Si je pars du principe qu'il n'y aura personne qui va m'entendre et que personne ne va acheter parce
non,
que...
Non, c'est jamais comme ça au départ.
Mais c'est une question de conviction et qu'on peut le faire. Parce qu'il y a toujours des gens qui raisonnent et qu'on touche ici. Parce que c'est l'émotion... On touche ici, je montre le cœur. c'est l'émotion. Et qu'est-ce qui fait, en fait, à un moment donné, le monde, il est en train de changer. Et est-ce qu'on veut une Rolex? Pardon pour l'exemple, mais
ah oui,
est-ce
non,
qu'on veut une montre de... ouais. Est-ce qu'on veut une montre de luxe parce qu'on veut montrer qu'on a les moyens ou est-ce qu'on veut une montre de luxe pour les valeurs qu'elle amène et parce qu'on a confiance, par exemple, dans la tradition, si c'est une entreprise qui est là depuis des centaines d'années. Donc, il y a un marché pour tous. Mais si je crois de base qu'il n'y a pas de marché, je suis cuite, quoi.
Non, alors on va pas faire l'analyse de la haute horlogerie. Je crois que ce qui est très important, c'est que vous disiez votre ressenti, votre vision. C'est vrai que on peut la partager ou pas, on peut l'édulcorer en partie, on peut la nuancer. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce que Valérie Demont a dans le cœur, dans la tête et envie de nous transmettre. Et ça, c'est très important, parce que je vois dans vos yeux beaucoup de bonté, beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité, des yeux très brillants. Et c'est vrai qu'on a envie de gens, on a cette envie d'interconnecter justement. Et vous êtes la personne avec qui c'est formidable d'interconnecter, parce qu'on apprend des choses et parce qu'on est dans le, comment dirais-je, dans la bienveillance.
Ben, ce que je voudrais, c'est ça, ce qu'on partage là maintenant pour tout le monde, pour chacun. Ça veut dire que ce soit en entreprise, bon, mon cheval de bataille, c'est l'entreprise, mais moi, j'aimerais que chaque collaborateur au sein d'une entreprise, quand il est autour de la table, il puisse partager exactement ce qu'il pense, ce qu'il ressent et que ce qu'il croit qui est juste au fond de lui, quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne manière de faire, quel est le bon outil à utiliser et qu'il puisse le dire vraiment avec conviction. Et peut-être pouvoir expliquer pourquoi, mais à partir à un moment donné d'un endroit où il dit en fait je sais pas, je sens que c'est comme ça. Et puis autour de la table, qu'est-ce qui va se passer?
Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui un management, je veux pas dire de base, mais disons un management tant soit peu intelligent, fait intervenir le ressenti des collaborateurs? Sinon on va dans le mur, on y va tout droit là.
C'est ce qu'un leader conscient et éclairé devrait apporter, cette bienveillance, cette prise en compte de l'autre dans son entièreté, dans toute sa dimension, et puis cette dimension impalpable, intuitive, qui dit « je sais », mais qui ne sait pas expliquer pourquoi.
Oui, alors il y a beaucoup de choses empiriques chez les entrepreneurs, parce que oui, c'est obligatoire, oui. On ne peut pas tout apprendre non. Et tout savoir.
C'est ça, on est... ouais. Et c'est là en fait, qu'on peut parler des fois d'entrepreneur instinctif. Moi, j'aurais plutôt envie de dire entrepreneur intuitif.
Mais... intuitif. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre l'intuition et l'instinct?
Il faut lire Hart pour ça.
Ah, mais on n'a pas encore.
Je vais vous le dire. Pour moi, en fait, l'instinct, c'est ce réflexe primaire de survie qu'on a. C'est-à-dire que je vais commencer à scanner ce qui se passe autour de moi, mon environnement. Voilà, il y a une information au travers, je capte au travers de mon sens, peut-être la peur ou autre chose, une anxiété X. À travers un message hormonal, il y a une information qui est envoyée à mon cerveau de réagir et puis de prendre telle ou telle décision. L'intuition, pour moi, ce qui est aussi un sens, il n'a pas le même processus et il a plutôt vocation à amener le message de l'âme, donc la vérité qui est pour la personne juste.
Vous avez amené beaucoup de messages de l'âme aujourd'hui. Beaucoup, Valérie. Je vous remercie beaucoup pour ça. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais beaucoup la prolonger et j'espère que vous reviendrez nous voir.
Avec très grand plaisir.
Parce que de toute façon, il faudra nous présenter Hart. On ne pourra pas faire sans.
Ça marche. D'accord. Alors, je reviens quand vous voulez.
Merci avec grand beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait passer beaucoup de cœur dans cette émission. Beaucoup.
Je suis comme je suis.
Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. Et qui va ensuite produire cette émission. À bientôt. À bientôt pour d'autres aventures du cœur.
À bientôt, Viviane.
À bientôt.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.